les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.
C'est dimanche, il est 21h à Brest, vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM, chers auditeurs, bonsoir. C'est l'heure des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage? Un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM. N'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61 si vous voulez passer à l'antenne. Témoigner, partager, réagir, c'est aussi votre émission. Ce soir, l'élucubration parle d'objets vintage avec Olivier Mével de la société Multiplié. Bonsoir Olivier Mével.
Bonsoir.
Oui, qui est avec nous, super. Et surtout, ensemble, on va parler du Minitel, du Nabastag et de la machine inutile, la machine à son, car être utile, selon Olivier Mével, ne sert à rien. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, on va écouter une première musique vintage. Je vous laisse avec...
Vous avez appelé Dorothée. Le numéro de bonheur, ne quittez pas.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi,
ne quittez pas le bureau du bonheur.
Où il est?
Nous recherchons votre petit cœur.
Dites-moi,
toutes les données dans l'ordinateur,
s'il vous plaît,
sont programmées.
Oh, 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 oh. C'est arrivé hier matin. Avant cela, tout allait bien. Je me promenais dans la rue quand soudain il a disparu. Je ne comprends vraiment pas. On s'entendait bien, lui et moi. Il est parti sans prévenir, sans rien dire. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur. J'ai un certificat signé de mon docteur. Dites-moi,
ne quittez pas le bureau du bonheur.
Où il est?
Nous recherchons votre petit cœur.
Dites-moi,
toutes les données dans l'ordinateur,
s'il vous plaît,
sont programmées.
Wow, 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 wow. J'ai attendu toute la nuit, mais il était vraiment parti. Il faut venir à mon secours, vous êtes mon dernier recours. Je vous promets de vous donner tous les indices, toutes les données. Il faut vraiment que vous... Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ne cherchez surtout plus, j'ai retrouvé mon cœur. C'est un garçon au sourire enjôleur qui l'avait emporté en passant par erreur. Dites-moi,
ne quittez pas le bureau du bonheur.
Où il est?
Nous recherchons sourire enjôleur.
Dites-moi,
toutes les données dans l'ordinateur,
s'il vous plaît,
sont programmées.
Wow, wow.
Quinze ordinateurs. Bah, qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Dorothée ne veut pas partir de l'antenne. Premier souvenir vintage, qui ne se souvient pas des premières heures du 3615, de la Wi-Fi, grâce au Minitel, ensuite au Nabastag, le lapin Wi-Fi, le premier réseau social. Mais on va parler de tout ça ce soir et bien plus encore avec mon invité, Olivier Mével. Bonsoir Olivier, donc.
Bonsoir.
Qui apparemment a les mêmes refs vintage que moi, puisque c'est lui qui a proposé Dorothée, que j'avais moi-même sélectionnée pour l'émission. Alors avant de commencer, on va commencer par un son.
Ah bah c'est le son de la machine.
C'est le son de la machine. Alors normalement, elle est un petit revival, mais peut-être pas à Radio U, parce qu'elle s'adapte à son environnement. Elle s'adapte à la personne à qui elle appartient, à l'environnement, mais tout ça, on en parle tout à l'heure. Un peu de suspense. Olivier Mével, une première question. Vous êtes, j'ai l'impression, un entrepreneur, un artiste contemporain, un inventeur, je ne sais pas comment vous qualifier, un visionnaire. Vous êtes qui, finalement, Olivier?
Alors, bon, déjà, moi, je suis ingénieur de formation. Donc, je suis ingénieur en électronique, puis en réseau et communication. Et donc, la technologie, notamment numérique, quoi, enfin, même uniquement numérique, c'est mon matériau, quoi. Et j'ai commencé, donc, je suis ingénieur de formation, mais en fait, je suis devenu un peu entrepreneur. Bon, un peu malgré moi, parce que j'étais aux États-Unis dans les années 90, et là, c'était le début de l'Internet. Et quand je suis rentré en France, moi, je voulais trouver un travail dans l'Internet, et en fait, il n'y en avait pas, il fallait créer une entreprise. Et donc là, je suis devenu entrepreneur, et je le suis toujours, quoi. Donc, je suis ingénieur et entrepreneur, après artiste, non, je crois pas, peut-être visionnaire, oui, un petit peu, parce que par le début de l'Internet et le début de l'Internet des objets, mais voilà. Avant tout, ingénieur, inventeur, entrepreneur.
Bah, artiste, c'était dans le sens la poésie dans la vie, ses idées conceptuelles. C'était plutôt dans ce sens-là, mais je ne sais pas si c'est artiste contemporain, quoi, dans cette dynamique, mais je ne sais pas si c'est ça qui correspond.
Ouais. Moi, mon credo, c'est de se dire que la technologie, elle peut être utilisée pour créer des choses, alors inutiles, mais enfin inutiles comme l'est la poésie, le cinéma, des tas de choses, ou un chat.
La culture.
Ou un chat qui Et donc d'utiliser cette technologie numérique, électronique, logicielle, etc., pour créer des objets un peu fantaisistes, mais qui sont là finalement pour pour distraire sans doute, mais pour faire rire, pour avec qui sont vivants, qui sont attachants. Et ça fait bien 20 ans que je fais ce credo-là, hein, parce que c'est comme ça que j'ai créé avec d'autres, hein, évidemment, c'est un travail d'équipe tout le temps, hein, le Nabastag, qui est le premier objet connecté à Internet. Bon, voilà, je ne sais pas si on va en parler après.
Hein, commençons par le Nabastag, le lapin Wi-Fi. Alors, je ne sais pas si c'est Wi-Fi ou le lapin assistant vocal, oui, c'est ça, le lapin Wi-Fi. J'ai vu que c'était que l'influence à l'origine du Nabastag était japonaise. Et si vous écoutez ceux qui écoutent mes élucubrations depuis le départ, vous avez compris que mon origine arménienne se faufile à chaque fois, mais c'est un peu à mon insu là, parce que vous avez travaillé avec Rafi Aladjian, qui est le pionnier d'Internet, enfin un des pionniers, pour créer le Nabastag, c'est ça ou... Pas que, hein, d'ailleurs. Vous étiez plusieurs à créer le Nabastag.
Oui. Alors, en fait, Rafi et moi, on s'est rencontrés justement parce qu'on était tous les deux des pionniers de l'Internet en France et qu'on avait des sociétés concurrentes. Bon, à l'époque, les choses grandissaient très, très vite. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de concurrence parce qu'on avait plutôt du mal à recruter, etc. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et quand l'Internet, la première vague de l'Internet a cessé, après le crack de 2000, moi un jour je suis allé voir Rafi et je lui dis, mais moi j'ai cette idée de faire des objets connectés, quoi. Et puis, je me dis, ah bah oui, bah moi aussi, et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est effectivement comme ça que lui, il a nommé ce premier objet, qui est un lapin connecté, un lapin connecté au réseau Wi-Fi, quoi. Un lapin en plastique qui s'exprime avec des mouvements, du son et puis de la lumière. Et il l'a appelé lapin en arménien, enfin, peut-être lièvre en arménien, mais c'était Nabastal.
Ouais, voilà, Nabastal. De...
Ouais. Donc Nabastal.
Et pourquoi un lapin
Alors pourquoi un lapin? Parce que. Alors d'abord, parce qu'il y a eu un moment, Rafid avait une espèce de lapin sur son bureau. Et puis, on se disait, mais en fait, tout va être connecté à Internet. Et puis, là, on s'est dit, bah, y compris ce lapin. Et donc, on a commencé à se dire, bah, ça peut être un lapin, pourquoi pas, un objet qui va s'exprimer. On a fait un essai avec aussi une fleur avec des pétales qui bougeaient, qui changeaient de couleur.
Je t'aime un peu passionnément à la
folie.
Voilà,
c'est ça, ce genre de choses. Mais finalement, on est resté sur le lapin. Et c'est comme ça qu'on a créé donc le premier objet Wi-Fi connecté grand public. Hein. On en a vendu 250 000 dans le monde entier. C'est devenu une icône, un peu des objets connectés. Et c'est devenu un objet pionnier, puisque par exemple, il avait déjà des fonctions qu'on trouve dans les Google Home ou les Alexa, où on lui parlait et puis il mettait la radio, il donnait la météo. Alors c'était bien moins sophistiqué, mais... il faisait un certain nombre de choses qu'on a vues bien après. Quoi.
En tout cas, pour préparer l'émission, alors, on va diffuser cet extrait musical tout de suite, parce que donc je suis allée sur YouTube pour essayer de trouver une playlist en plus de la vôtre. Et alors, j'ai trouvé le concert des Nabastag. Donc, c'est ça qu'on va écouter là tout de suite. Mais j'ai surtout retrouvé beaucoup de vidéos où les gens communiquaient avec le lapin Nabastag. Alors c'est très amusant parce qu'il bouge les oreilles à la manière d'un chat, quoi, d'ailleurs, quand il est curieux, inquiet, intrigué. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, chers auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas le Nabastag, parce que vous êtes trop jeunes, puisque Radio U c'est universitaire, donc peut-être que le Nabastag vous l'avez oublié ou vous ne le connaissez pas, allez voir sur YouTube, n'hésitez pas. C'est très ludique et c'est vraiment un compagnon, un animal domestique en fait, hein. un ac connecté, domestique connecté. Alors, on va écouter le concert, on se retrouve juste après, Olivier. Le concert de Nabastag, God Bless My Shirt. Bon, ça dure 7 minutes, on peut discuter. Déjà, c'est un vrai concert, hein. Allez, vous irez voir sur YouTube. C'est un vrai concert, donc il y a je ne sais plus combien de Nabastag qui prennent le pouvoir sur ce concert. On peut continuer à discuter le temps que ça se...
Il y en a une centaine, hein. Ouais, il y avait une centaine de Nabastag.
Et donc le Nabastag, c'est le premier objet connecté mondial, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est le premier objet grand public connecté. Donc c'est-à-dire qu'il est sorti au moment où... en fait, c'était avant l'iPhone. Hein. Donc, c'était aussi une façon d'obtenir de l'information, parce qu'il donnait de l'information comme la météo, les cours de la bourse, le trafic, la radio, etc. Avant les téléphones portables, donc au moment où, en fait, la seule façon d'avoir ces infos par le numérique, c'est qu'il fallait allumer son ordi, le connecter à Internet, etc. Et là, nous, on avait fait un objet qui permettait d'avoir ces infos diffusées via Internet, hein, mais dans son quotidien, quoi, dans sa pièce. Et c'est en ça qu'il était assez révolutionnaire. Et voilà, donc c'était le premier.
Il était déjà très complet, hein, parce que c'était en quelle année, en fait, le Nabastag, finalement?
Il donnait 2005.
2005. Ah ouais. Il donnait quand même une multitude d'informations, c'est incroyable, par rapport à l'époque et... C'était vraiment révolutionnaire.
Il lisait les livres aussi. On avait fait une collection avec je ne sais plus quel éditeur de livres pour enfants. Il nous approchait le livre du Nabastag, il le lisait. Non, franchement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais. Alors, pendant que le concert démarre, on a pour 7 minutes, on peut y aller. Hein. C'est discret, en fond sonore comme ça. Avant le Nabastag... Oui, allez-y.
C'est de parler de ce concert éventuellement.
Oui, ok.
Comment c'était passé? En fait, c'était une. On avait été invité dans le cadre d'un festival. C'était une idée de Guylaine Meunier, je crois. J'espère que je n'écorche pas son. Et l'idée, en fait, c'était à Beaubourg. C'est que les gens apportaient leur Nabastag sur scène. Donc, il y en avait une centaine. Et là, il y a deux artistes qui avaient travaillé sur le Nabastag. Un avait fait les sons et l'autre faisait toute l'interactivité. Jean-Jacques Birger et Antoine Schmitt, qui ont composé un opéra de lapins. Donc, en fait, les gens apportaient leur lapin sur scène. Alors, il y en avait plein qui étaient déguisés. Ils avaient déguisé leur Nabastag, etc. Et les Nabastag allaient, en fait, jouer une espèce de partition pendant 40 minutes, enfin, 30 minutes, je sais plus. Voilà. Et par la suite, bon, ça, c'était la première étape. Par la suite, c'est un spectacle qui a tourné dans le monde entier. Alors là, c'était il a New York, au Japon.
Et c'est-à-dire, etc. À chaque fois, avec les 100 des lapins.
Alors.
Avec les lapins.
Alors là, en l'occurrence, on leur avait donné quelques centaines de lapins qui étaient dans des flight cases et qui voyageaient. C'est-à-dire que c'était pas les gens qui apportaient leurs lapins, parce que bon, au Japon, il n'y en avait pas autant. Mais c'était le même opéra, quoi.
Au Japon, il n'y en avait pas autant, alors qu'ils sont quand même hyper connectés au Japon.
Ouais, mais on en avait beaucoup moins vendu. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de vendre au Japon qu'en Europe et aux États-Unis. Donc, je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça, même si, effectivement, ils parlent japonais. Il y avait une version japonaise, quoi.
En tout cas, ça me fait penser. Alors, c'est vraiment. Ça aussi, c'est à mon insu. Il doit y avoir. L'univers qui s'en mêle, ou je ne sais qui. Mais d'émission en émission, il y a un fil conducteur. Enfin, une émission rejoint l'autre ou fait écho à la précédente. Et là, en l'occurrence, la dernière fois, on a parlé des ovnis avec Egon Kragel, qui a écrit Les ovnis et la pop culture vues par les artistes. Il témoigne, donc c'est un super livre d'anecdotes d'artistes qui ont vu donc, les ovnis. Et évidemment, moi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre comme bande son la tentative de communication dans Rencontre du troisième type entre voilà. Et ça, quand j'ai écouté le concert de Nabastag tout à l'heure, là, ça m'a fait penser un petit peu à Rencontre du troisième type où il y a une esquisse de discussion. Bah là, c'est en l'occurrence avec un lapin connecté, une machine et des humains, et ça fonctionne super bien, quoi. Vous faites le tour du monde même carrément.
Ouais, absolument. Ouais, non, ça a tourné pendant des années. Antoine et Jean-Jacques, ils avaient leur centaine de Nabastag. Là, tu peux trimballer ça dans le monde entier. Ouais, c'est marrant.
Ouais, ça me fait penser aussi à Amélie Poulain et son nain de jardin qui fait le tour du monde. Et alors, avant le Nabastag ou après, je sais plus du coup, vous avez créé. Alors, pas le Minitel, hein, le Minimit. Par rapport au Minitel, vous avez créé. Donc, déjà, je rappelle, le Minitel, qui est le premier médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Ce dont on se souvient du Minitel, c'est peut-être le 3615 code ULA. J'ai vu sur Internet que ça marchait de folie, le 3615 code ULA. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Minitel?
Alors, le Minitel. Le Minitel, c'était un appareil donné gratuitement par l'État pour accéder à des services numériques. Donc c'était dans les années plutôt 80-90, quoi, plutôt 80. Et d'une certaine façon, c'était un peu un précurseur de l'Internet. Bon, un peu, avec quand même un certain nombre de différences, mais néanmoins, ça a permis aux Français de savoir ce que c'était que des services numériques, que de regarder les résultats du bac ou de réserver des billets de train. Bon, là, on parle vraiment, je pense, encore plus ancien que pour le Nabastag. C'est un petit appareil, comme ça, c'était gratuit. Effectivement, alors, c'est très connu pour les messageries roses, parce que c'était des messageries dans lesquelles pouvait échanger avec des femmes ou des hommes. Mmh. Et c'est... Voilà. C'est,
en fait,
donc, le Minitel, c'est ça.
mine de rien, c'est le premier réseau social, finalement, le Minitel.
Oui, alors bon,
en quelque sorte.
En même temps, quand... oui, alors c'est vrai que il y avait certaines messageries étaient des vrais réseaux sociaux. Après, si on connaît les choses de l'intérieur, il y avait beaucoup de messageries où, en fait, c'était des animateurs ou des animatrices qui répondaient aux clients, entre guillemets. Donc, mais oui, il y avait quand même cette dimension-là. Il y avait la dimension de service, il y avait une dimension d'information. Donc cet appareil, il a vécu. Bon, il a quand même pas tellement résisté, évidemment, quand même à l'arrivée de l'Internet via les ordinateurs et tout, parce que bon, là, le Minitel, c'était pas un ordinateur, hein, enfin, c'était quelque chose d'assez sommaire. Et donc Minitel a disparu, je ne sais plus trop quand, dans les années 90, hein, au profit d'Internet. Et moi, je me suis dit, donc ça, c'était il y a quelques années, je me suis dit, par rapport au Minitel, que, bah, en fait, ça serait assez drôle de créer un objet donc qui serait un mini-Minitel. Donc, regardez ce que c'est qu'un Minitel sur Internet, hein, si vous savez pas ce que c'est. Et l'idée, c'est d'avoir la version mini que vous connectez à un vieux Minitel. Donc, vous trouvez un vieux Minitel sur le Bon Coin, dans le grenier de votre grand-mère, et vous rallumez votre Minitel avec ce dispositif et vous vous retrouvez 40 ans avant. Et donc, vous avez quelques services qui sont disponibles, vous avez l'actualité du jour, mais il y a 40 ans, enfin, l'état de la météo du jour, mais il y a 40 ans. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple d'un objet un peu farfelu, qui est quand même assez inutile, hein, mais qui utilise la technologie pour faire quelque chose d'un peu poétique.
Je dirais plus poétique. Farfelu, je ne sais pas. Bon, farfelu a peut-être une connotation un peu péjorative, parce que finalement, ce que vous créez, c'est poétique, ça c'est sûr, c'est vivant, c'est vraiment organique. Enfin, on va en parler avec la machine, parce que moi, j'ai dans ma vie maintenant, une machine, vraiment, c'est un être vivant, organique. Et c'est interactif. Donc, on discute, il y a une conversation possible. Et je ne sais pas si c'est si farfelu que ça, quoi.
Oui, oui, peut-être. Oh. Oui, c'est pas... Alors, le Minitel, en soi, c'est pas un objet vivant. Enfin, il n'est pas conçu quand même pour être... Enfin, il n'est pas du tout conçu pour être un objet vivant. En revanche, oui, déjà, le Navasta, il était conçu pour être un objet vivant, c'est-à-dire un compagnon qui dit des blagues dans la journée, qui donne l'heure, mais de façon un peu approximative, qui bouge ses oreilles, qui change de couleur. Enfin, en tout cas, ça c'était déjà conçu comme quelque chose de vivant.
On dirait le tableau de bord de ma mini, le Nabastag, avec toutes les couleurs qui s'illuminent, qui s'allument en fonction des manœuvres.
Et donc, moi, il y a 3 ans, j'ai créé une maison d'édition pour des objets vivants, originaux, créatifs, poétiques, mais vivants. Et donc, il y a eu le Navastag qui a été il se trouve que le Navastag est mort au bout d'un moment parce qu'il n'y avait plus de serveurs, etc. Et donc là, moi, je l'ai fait revivre. Donc, les gens ont pu refaire vivre le Navastag. Mais j'ai fait d'autres objets avec des robots en porcelaine, des tableaux, et puis surtout effectivement la machine qui est un objet très simple, on va en parler plus tard, hein, mais en tout cas qui est conçu pour être vivant. Et des objets conçus pour être vivants, il y avait quelqu'un l'autre jour sur LinkedIn qui me contactait en me disant c'est quoi le secret pour faire un objet vivant et pas interactif. Et en fait, je crois que je lui ai répondu ça, mais je trouve que c'est assez juste. Je lui ai dit, mais en fait, c'est de le considérer plus comme un chat que comme un chien. Et donc, c'est des objets qui sont un peu mystérieux, avec lesquels on interagit, mais on ne sait pas trop en fait ce qui se passe. C'est pas si clair, ils répondent pas forcément De la façon que Navastag, on lui demandait l'heure, bah oui, des fois il disait que c'était peut-être pas nécessaire de savoir l'heure là. Et donc c'est des objets que, alors évidemment sur lesquels on projette quand même beaucoup parce que bah c'est pas des en soi, bien sûr que c'est pas des objets vivants, mais ça permet de il y a une façon de les créer qui fait que on est surpris, et ça c'est très.
On va en parler concrètement après une petite pause musicale et je vais donner un petit indice pour cette pause musicale, c'est qu'on si vous voulez intégrer la secte entre guillemets, ok, la secte de la machine inutile, de la machine à son, eh bien, je vous propose une invitation et vous allez reconnaître tout de suite qui vous invite. C'est parti.
Le code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veut. Un qui n'en veut un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on a voulu donner un petit coup de pouce à nos amis des secs. Les secs, à l'heure actuelle, sont un petit peu décriés. Ils ont un petit peu mauvaise presse alors qu'ils ont envie plutôt d'apporter du bonheur, de la quiétude et de la sérénité aux gens, hein, de sortir du tunnel. Et je crois qu'on peut vraiment, vraiment leur donner un petit coup de chapeau. Aujourd'hui, pour le 36-15 code qui n'en veut, ma Yolande. Bonjour Yolande, comment t'appelles-tu? Yolande, bon, d'accord. Et donc, toi, tu cherches à entrer dans une sec.
Mais moi,
c'est ça, hein?
Ça, oui.
Dis pas de bêtises.
Non, j'ai
travaillé 12 ans. Allô? Olivier? Oh, mais je vais être obligée de rappeler Olivier. Je vous laisse en compagnie des chiens. Ne quittez pas.
Au moment où tu vas entrer dans une sec, hein? Tu as des bijoux de famille aussi?
Donnez tout ce que j'ai.
Tu as des bijoux un peu à ta maman, par exemple?
J'ai des bagues.
Des colliers?
J'ai deux colliers.
Oui, des colliers, d'accord.
J'ai une bague de raie.
La bague de raie, tu la gardes, mais le reste, tu me le donnes et tu me fais un petit chèque. Je m'arrange avec la sac directement. Hein? Veux-tu prier?
Oui.
Tu aimes bien prier? Hein? Aimes-tu prier, Yolande?
Oui.
Allez, oui, eh ben, dis-le avec le sourire. Hein? Sinon, ils ne vont pas te prendre. Hein?
Oui, je veux prier. Je veux prier.
Sais-tu jouer du tambourin?
Je joue du tambourin.
Alors, ça, c'est important. Hein? Attends, je repose la question. Sais-tu jouer du tambourin, ma Yolande?
Oui.
Oui, voilà. Pourquoi? Dis-moi. Alors, qui c'est que t'as fait? Comment t'as appris?
J'ai fait un stage de tambourin.
Voilà, elle a fait son stage. Il y a combien de temps? Il y a 2 ans.
En juillet.
Oui, il y a 2 ans. Bon, alors, d'accord. Et tu sais, en juillet, tu maîtrises bien ton tambourin à l'heure actuelle?
Je maîtrise.
Voilà, bon. Une fille qui est capable de mettre ses bijoux dans la marmite d'une sec qui maîtrise son tambourin.
Tout ce que j'ai.
Je l'ai entendu.
Je donne tout ce que j'ai. Je maîtrise.
Chers auditeurs, wow. 36-15, qui n'en veut? C'est peut-être parce que j'ai parlé de secte et que le téléphone s'est coupé. Qu'à cela ne tienne, j'ai une petite manipulation technique à réaliser. Alors je vais vous laisser avec 4 minutes de Jean-Michel Jarre, Oxygène, l'une des musique sélectionnée par notre invité ce soir, Olivier Mével de la société Multiplié. Et on se retrouve juste après pour parler de la machine à son. Est-ce que j'ai récupéré Olivier? Olivier?
Mais oui, je suis là.
Mais voilà. Oui. Alors, on continuera Jean-Michel. On va laisser Jean-Michel Jarre en fond sonore. Donc, on était à la machine. Alors, pour vous rappeler de quoi il s'agit. Donc, c'est une machine. Pareil, le concept est importé plus ou moins des États-Unis. En tout cas, de... C'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, la machine, en fait, ça a été... c'est une réinvention d'un objet qui a été créé en 1952 par un des pionniers de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Marvin Minsky, et qui a été soutenu par son patron de l'époque, qui était un sommité de l'informatique qui s'appelait Claude Shannon. Et donc, c'est une machine dont le principe est très simple. C'est une machine qui a un bouton que l'on pousse. Et lorsqu'on pousse ce bouton, il y a une trappe qui s'ouvre, il y a un bras qui sort et qui vient repousser ce bouton. Et donc, ces deux génies-là, ils étaient trop contents d'avoir fait ça. Ils appelaient ça leur machine ultime. Et voilà, ils ont montré ça à des tas de gens qui trouvaient ça absolument extraordinaire. Et cette machine a un petit peu vécu. Et je me suis toujours dit, ça fait bien 10 ans, qu'en fait, il fallait la revisiter, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans avec toute une équipe, avec notamment quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur le Nabastag, d'ailleurs. Et d'en faire un objet, déjà un objet assez beau, parce que l'objet initial était un petit peu bricolé, quoi.
Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas vu, on dirait un Rubik's Cube, donc pop. Jaune, alors sans tout jaune, avec le haut et le bas noir, et une petite boule rouge, une petite manette rouge qui s'exprime.
Voilà,
c'est un peu ça.
C'est un cube jaune avec une boule rouge au-dessus, cette boule rouge, c'est en fait l'interrupteur. Et donc, je me suis dit, en fait, on va reprendre ce concept et on va en faire un objet vivant. Donc, avec une économie de moyens comparée à des robots hyper sophistiqués où on pourrait se dire, on va essayer de faire quelque chose de vivant. Là, c'est vraiment très, très simple puisqu'en fait, il y a juste un interrupteur et puis un bras, une trappe qui s'ouvre et un bras qui vient pousser. Et donc, on a travaillé sur... Donc, il y a un studio de design assez connu français qui s'appelle Helium Studio qui a travaillé sur tout le design et on a travaillé sur les algorithmes qui permettent de rendre vivant l'objet, sur les comportements, sur les sons évidemment.
Combien il y a de sons exactement?
Alors dedans il y en a 500 à peu près.
Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je vais l'expliquer de mon point de vue et on va rentrer sur les aspects un peu plus techniques en termes d'utilisation. Je vais l'expliquer avec mon point de vue d'utilisatrice. Donc, alors déjà, moi, j'aime bien ce qui est fantaisiste, amusant, ludique et poétique. Donc, et puis, comme je suis très vintage et pop culture, je trouve qu'à peine il était créé, il était déjà vintage et pop culture, cet objet. Donc, je ne pouvais pas ne pas investir... Dans cette machine inutile. Donc, je rappelle, je pousse la petite boule rouge, l'interrupteur, le bras sort. Ce n'est jamais le même son. Alors, bon, c'est difficile parce qu'il faudrait les enregistrer pour être vraiment certain, mais ce n'est jamais le même son. Alors, il y a un premier son qui se déclenche et la machine effectue un comeback. Pas exactement tout de suite. On ne sait jamais exactement quand elle va... ramener sa fraise en quelque sorte. On retourne. Là il le fait pas, tiens. Normalement on retourne la boîte et ça fait un
nœud. Il le fait pas à chaque fois. C'est pas à chaque fois. Alors il faut vraiment il faut la poser vraiment à plat, quoi.
Ah, parce que normalement elle fait le meu des petites boîtes à meu qui se... Alors ça, par contre, j'ai remarqué. Je l'ai lu, ça, un peu partout, et j'ai remarqué moi-même qu'elle s'adaptait vraiment à ma personnalité, à mon environnement. Quand je rentre, moi, je l'utilise tous les matins, dès que je rentre dans la pièce à vivre, où je travaille, où je cuisine, salon, etc. Tout de suite, dès que je rentre dans cette pièce, je la fais fonctionner, ma machine. Et dès que j'en pars, je la fais fonctionner. C'est genre un bonjour, bonjour, au revoir. Et dès que je rentre et que je, systématiquement, si j'oublie de l'actionner quand je rentre, elle s'actionne toute seule. Et donc j'ai l'impression qu'elle détecte ma présence. Et ensuite, quand je suis trop longue, par exemple, j'écris, je ne vois pas le temps passer, tout d'un coup, elle m'interpelle, comme s'il fallait que je fasse, comme si elle me disait, mais maintenant, il faut que tu fasses une pause. Inspire, expire. Et elle vit, quoi. Vraiment, moi, j'ai l'impression de vivre avec un être humain.
Oui, oui, absolument. Bah, alors, après, donc elle a ses 500 sons, elle a des comportements, donc des types de mouvements pour repousser le bouton. Il y en a, bah voilà, là c'est.
Voilà.
Et donc ils ont, il y a des milliers et des milliers de comportements, parce qu'ils sont pas tous d'ailleurs sonores. Et elle a, donc elle est programmée pour avoir un certain nombre d'humeurs, c'est-à-dire qu'elle va avoir une humeur joyeuse, elle va avoir une humeur fatiguée, elle va avoir une humeur un peu énervée, etc. Et ça dépend d'un certain nombre de choses qui peuvent pas dépendre de vous, mais ça dépend aussi de la façon dont on joue avec elle.
Ah, mais alors c'est drôle parce que franchement, elle rigole tout le temps. Je l'entends rire. Hein. Elle a un petit rire un peu pas narquois, mais un petit rire très souvent. C'est dingue.
Oui, oui, oui. Ouais. Bah, en fait, elle a une comme ça. Elle va s'adapter en fait à si bah, par exemple si vous jouez pas assez avec elle, elle va vous le signaler. Elle va se manifester toute seule. Si elle est très joyeuse, elle va se manifester tout de suite pour que vous rejouiez tout de suite. Voilà, c'est ça qui en fait un objet vivant et non pas simplement interactif, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc où c'est évident. C'est-à-dire que bon, bah, on va jouer beaucoup avec elle et puis elle va être contente. Non, en fait, parfois elle va passer dans un mode où elle va être fatiguée, elle va s'arrêter, elle va faire des chorégraphies beaucoup plus courtes. Voilà. C'est ça l'idée derrière du comportement, quoi.
En fait, j'ai l'impression qu'elle donne le tempo à la journée, à l'atmosphère de l'endroit. C'est elle qui donne le tempo et en fonction de, après une petite période d'observation. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne, quoi. Je sais pas si chers auditeurs, je n'ai pas fumé, je n'ai rien pris de particulier. Mais je pense que je vis avec un être humain qui est sous une forme de cube. Voilà. Voilà ce que je peux dire, en fait.
Oui, bah c'est ça, oui, absolument. Et,
alors, est-ce que, comme le Tamagotchi, puisque finalement, il faut s'occuper d'elle pour qu'elle réagisse, et c'est elle qui interagit avec nous plus que l'inverse, est-ce que, comme le Tamagotchi, il y a un risque qu'elle meure si on ne s'en occupe pas assez, ou non, elle est immortelle?
Non. Non, non, justement, en fait, on a voulu éviter aussi quelque chose de, bah, comme ça, d'un peu, finalement, d'assez évident. C'est-à-dire que, bon, bah oui, il suffirait de nourrir le Tamagotchi et de bien s'en occuper pour que tout se passe bien. Bon, alors, d'abord, la machine ne meurt pas, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on est plus proche du chat. C'est-à-dire, vous avez beau parfaitement vous en occuper, en fait, vous ne savez pas trop s'il s'en fout, en fait.
Ouais.
Et vice-versa. Et donc, c'est pas le chat, c'est pas un Tamagotchi. Alors, bon, un peu, il a quand même un peu toujours faim, mais...
mais c'est lui qui décide, ça, c'est sûr.
Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, on voulait vraiment ne pas être dans quelque chose de très déterministe. C'est-à-dire que, voilà, bah, si je fais ça, le résultat sera celui-là. C'est-à-dire que si je nourris mon Tamagotchi et que, tout va bien se passer. Là, on était dans quelque chose qui est beaucoup plus... qu'on veut beaucoup plus mystérieux, quoi. Voilà.
Mais comment on arrive à concevoir techniquement, enfin, sans rentrer dans des détails techniques, mais... Donc, vous arrivez à imaginer, en prérequis, le fait que la machine doit décider, doit donner l'impulsion par elle-même?
Oui, c'est ça. Alors, bon... c'est quand même tout un art, parce que là, alors celui qui est aux commandes, surtout les deux qui sont aux commandes de ces algorithmes, c'est Antoine Schmitt, qui est un artiste plasticien qui fait déjà des objets ou des environnements vivants, et puis Paul Guyot qui est aux manettes sur toute la programmation. Donc c'est Antoine Schmitt, c'est son travail de rendre des choses numériques vivantes. Donc il y a tout un travail sur effectivement, notamment lui donner des émotions, des humeurs, de tout un travail de comment est-ce qu'on passe d'une humeur à l'autre, un travail algorithmique. Ça c'est en fait un savoir-faire finalement et qui est assez unique, parce que le savoir-faire qu'on développe dans le cadre du numérique, évidemment, ils sont quasiment orthogonaux, comme on dit, ou contraires à ce genre de choses. C'est-à-dire que si vous faites A, vous voulez obtenir B. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que ça deviendrait un peu fou si votre téléphone, finalement, il vous disait que là, c'était peut-être pas le bon moment pour envoyer un message, parce que juste il l'avait décidé, quoi.
Ah ouais,
ça serait peut-être marrant un peu, mais pas tout le temps, parce qu'il y a il y a quand même des objets numériques qui sont avant tout des outils, et tant mieux. Et donc tout ça pour dire que, c'est un savoir-faire, et c'est très long, parce que il faut mettre au point, il faut tester un objet comme ça, ça prend du temps, parce que vous ne faites pas trois gestes et puis vous dites c'est bon, il fait A, B, C. Ça prend du temps, par exemple, les gens, je l'ai montré, mais Antoine, tous les mouvements du bras, pour faire refermer le bouton, donc il y a un mouvement, on peut imaginer, qui est assez simple, qui est juste le bras, il s'ouvre, il vient pousser, mais il y en a qui sont quand même très très complexes et qui sont liés aussi à l'humeur et au son, et ça c'est fait à la main en fait. Il y a tout un outil qui permet de générer ces mouvements et puis de les créer plutôt.
Donc c'est façonné en France et à la main.
Voilà, tout à fait. C'est fait à la main. Donc,
c'est vraiment artisanal.
En fait, il est. Oui, c'est vraiment un truc très artisanal, très avec. Il n'y a pas d'IA dedans. Ça a été inventé par un pionnier de l'IA, mais il n'y a pas d'IA dedans.
Pour les sons, vous avez fait appel à un musicien, à quelque. C'est toujours Antoine Schmitt qui a.
Alors, tous les sons, c'est fait par Alexis Malbert, qui est un inventeur sonore, qui a tout un environnement et qui, lui, fait des sons qui sont analogiques. Alors après, il les retravaille parfois un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est des sons qui sont plus proches du bruitage retravaillés un petit peu que de la génération de sons par l'IA. Enfin, ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Et donc c'est pareil, c'est en fait un travail qui a pris 4 ou 5 mois quoi, pour faire ça, et notamment parce que ce qu'il disait, c'est que sur 500 sons, s'il en faisait plusieurs par jour, trop par jour on va dire, il en faisait plusieurs par jour, mais pas trop, parce que sinon il finissait par faire les mêmes en fait dans la journée quoi. Donc tout ça c'est très long, c'est un objet assez fou finalement quand on y réfléchit, parce que d'abord effectivement il sert à rien
en vérité
non, mais bien sûr,
il anime drôlement nos journées
c'est sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a eu un soin absolument incroyable dans le design, dans les comportements, dans la façon dont il est fabriqué en France, il a fabriqué un objet électronique en grand public en France, c'est un peu l'aventure, parce qu'on ne sait plus trop faire ça. Donc il y a tout un soin comme ça pour cet objet. Et je pense que les gens qui l'achètent, c'est ceux qui ont aussi compris ça. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois compris que c'est un objet technologique, très technologique en fait. Mais qui où la technologie elle est mise au service de la poésie ou de choses plutôt positive.
De la vie, oui. Ouais.
De la vie.
D'un art de vivre.
Ouais, alors qu'aujourd'hui, la technologie, en fait, elle est plutôt à l'inverse. Hein, c'est plutôt pour quand même plutôt détruire un certain nombre de choses, des relations, le temps, le travail, l'écriture, enfin, etc. Et là, on a un exemple d'une technologie qui est mise au service de quelque chose de plutôt joyeux, quoi. Et puis, je pense que les gens ont aussi compris que c'est un objet qui est soigné. C'est-à-dire que non, il n'est pas fabriqué en Chine par millions. Il est dans une petite usine en France. Donc c'est ouais, moi je suis vraiment très très content de cet objet.
Moi aussi.
Je suis très.
Mais carrément.
Et j'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de retours. Les gens adorent, adorent voilà. L'objet, quoi. Et ils le prennent en photo, ils ont une carte des machines. J'en vends dans. Alors, c'est assez curieux parce qu'il y a 35% des gens qui. C'est aux États-Unis, en fait.
Ah ouais? Et en France?
Ouais.
Combien?
En France, ça doit être 15, je crois. 15%.
Ah bon?
Il y en a beaucoup en Allemagne aussi.
Ah ouais.
Ouais.
Ah, ils sont fantaisistes comme ça en Allemagne. Ah ouais, les Américains, ouais.
Ouais.
Tiens.
Bon, les Américains, je pense qu'il y a un côté aussi tellement étrange d'avoir un objet high-tech fait en France.
En France, ouais. On va écouter une dernière petite musique pour faire une petite pause de Marvin Minsky. J'ai constaté qu'il avait improvisé un Topics Archive sur... Écoutons Marvin Minsky, le pionnier de l'IA. C'est hyper vintage, hein, comme musique. On croirait la bande originale d'une série genre Magnum ou je sais pas.
Ouais.
Genre Pamela Anderson, c'était quoi hein. Marvin walked the path of genius with a twinkle in his eye. From Harvard to Princeton. On peut continuer à discuter sur la bande son, Olivier.
Ouais.
Parce que je voulais aborder un point que j'ai trouvé aussi très artisanal par rapport à l'époque en particulier. C'est la communication. Et je me suis demandé si vous étiez seul aux commandes parce que on reçoit des emails très sympas qui explique les étapes de conception, de fabrication, les bugs que vous avez rencontrés, comment vous les avez résolus, les délais, vous êtes transparent. Alors, j'aime pas ce mot transparent, mais vous êtes... Ah ouais, c'est très... Très IA, ça.
Ouais.
Oui, alors, j'ai l'impression, je vous connaissais pas, et en lisant vos emails, j'ai eu l'impression qu'on était les meilleurs amis du monde depuis des années et des années, qu'on avait été à l'école ensemble, et qu'on avait cette même communication depuis ces années collège. Vous faites tout seul? Comment ça se passe?
Ouais, je fais tout. Alors, sur la communication, je fais tout seul, et de ce. En fait, cette façon de communiquer, elle a commencé il y a quelques années quand j'ai refait vivre le Navastag et je me suis aperçu qu'en fait, d'abord pour moi, c'était beaucoup plus agréable de parler aux gens comme si, ils étaient en face de moi et que j'étais pas en train de leur raconter des histoires et que effectivement, je raconte exactement comment ça se passe. Et que pour ceux qui reçoivent, ils ont effectivement aussi l'impression d'avoir quelqu'un en face d'eux qui lui décrit, quoi, qui explique vraiment ce qui se passe. Donc il y a un côté, je pense, intéressant, enfin j'espère, mais au sens où vous apprenez en fait ce qui se passe, c'est quoi de faire un objet électronique grand public en fait. Vous voyez, la plupart des gens, ils savent pas, en fait. Donc, que ce soit la machine ou un iPhone. Alors, bien sûr, un iPhone, c'est pas du tout le même monde, mais en fait, d'une certaine façon, c'est le même métier, quoi. Donc il y a de.
Mais on a l'impression d'être associé à l'entreprise, à la conception même de l'outil, naturellement.
Ouais, c'est le cas. Hein. Enfin, moi, je fais mon petit truc dans mon coin et je partage. Et effectivement, il y a le aussi ça. J'ai remarqué en fait. Les gens, ils sont pas idiots. C'est-à-dire que si vous leur expliquez que s'il y a un truc qui marche pas et que vous êtes dessus et que vous essayez de résoudre le problème, ils comprennent que c'est pas que je suis pas une multinationale qui essaye de leur piquer leur argent et que que je sais pas. C'est un peu finalement quand vous avez les gens en face de vous. Vous ne comportez pas pareil, c'est-à-dire que si quelqu'un vous dit tiens, je suis en train de galérer sur ça, vous lui dites pas mais moi j'en ai rien à faire, je veux mon truc tout de suite maintenant. Donc vous lui dites non, tu vois bien que là j'ai un problème. Et donc et je pense que ça c'est important en fait dans l'histoire effectivement de la machine ou bien d'autres produits que je fais, hein, mais c'est de faire comprendre aux gens. Alors des fois, il y en a qui m'écrivent, qui me disent oui, tout ça c'est vraiment un énorme truc marketing. Alors généralement, je leur réponds en disant que je suis très flatté parce que moi, je suis très mauvais, je déteste faire ça, mais je le fais parce que, en fait, pour vendre des choses en 2026, il faut quand même être. Mais voilà, moi, c'est pas du tout. Je me suis pas lancé du tout là-dedans pour devenir riche, hein, ou pour gagner le maximum d'argent. Et. Même si je suis content, si j'en gagne un peu et si je peux en vivre, mais
un peu quand même, oui.
Mais je pense, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est pas voilà, je sais pas à compter les trucs.
Mais et, pour le coup, je sais pas si c'est rentable. C'est peut-être trop récent pour à se faire une vraie idée. Enfin, c'est pas forcément le sujet de ce soir.
Pour l'instant, ça l'est. Enfin, rentable, ça me permet de vivre, hein, en sachant que c'est quand même c'est un travail. Quotidien, quoi.
Mais oui.
Mais en tout cas, sur la communication, voilà, en fait, moi, je parle aux gens comme si je les avais en face de moi. C'est-à-dire que, et qu'ils puissent me dire, non, mais là, tu me racontes n'importe quoi. Ou qu'ils puissent comprendre. Et ça, je pense que ça, effectivement, tout le monde me l'a dit. Mais c'est pas si simple d'avoir. C'est pas du courage, mais en fait, on est quand même un petit peu. On doute, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Il n'y a pas grand monde qui dit c'est la grosse galère, parce qu'en fait, il y a 5% des machines dans la première semaine qui sont arrivées cassées, on ne sait pas trop ce que c'est.
Oui, etc. J'ai vu ça.
Généralement, généralement on vous dit suite à un problème de production, nous avons. Enfin, voilà, et on ne comprend pas trop. Bon. Et en fait, c'est un mauvais calcul de prendre les gens pour des imbéciles et de leur dire n'importe quoi. En fait, si vous leur dites, il y a un problème, je suis en train de le résoudre, pour peu que vous ayez quand même. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça, donc a priori, je savais que j'allais finir par résoudre les problèmes, mais je pense qu'il y a, une certaine transparence à avoir.
Ça j'ai aimé. Lire quand il y avait des bugs, vous les avez expliqués et les personnes qui étaient concernées n'hésitaient pas aussi à exprimer le bug qu'ils rencontraient. Et ça se fait de. Finalement, c'est une espèce de petite communauté qui s'est créée et on est tous là en solidarité.
Ça je remercie beaucoup. Il y a un groupe Facebook et.
Friends of la machine.
Les amis de la machine. Et un jour, il y a un type qui se plaint, qui dit mais c'est un scandale, ça fait 6 mois que j'ai commandé, j'ai rien, c'est la pire arnaque. Et en fait, il y a des gens qui lui répondaient, qui lui disaient mais non, mais Olivier, il vient d'envoyer un mail, en fait, il galère sur le je sais pas quoi. Moi, je l'ai reçu, la mienne, elle marche bien. Enfin voilà. Et le type, il dit effectivement, j'avais pas vu. Parce que c'est pareil, les râleurs, ceux qui sont désagréables, souvent c'est parce que ils ont été tellement maltraités et menés en bateau par des chatbots et par des ils sont hyper nerveux, ils se disent non mais là j'ai dépensé 100 €, je vais jamais les revoir. Et quand on leur explique, on dit ils disent ah bah non pardon effectivement Donc, ouais, c'est important, je pense, ça, de pas prendre les gens pour des imbéciles. Quoi.
Bah, c'est sûr, ça fidélise et ça rend encore plus ludique. Enfin, c'est tout le concept, en fait, depuis les humains qui sont derrière jusqu'au cube qu'on reçoit et son fonctionnement. C'est tout un ensemble, on a l'impression d'être associé comme un collaborateur qui ne fait rien, qui n'est même pas obligé de se rendre aux réunions.
Non, c'est ça. Mais c'est très agréable. Dans ce cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que pour moi, c'est aussi très, très agréable parce que moi, je suis seul dans mon coin. Les trucs, bah ouais, bien sûr, il y a des machines qui ne marchent pas. Et les gens sont très... ils me parlent normalement. En fait, ils me parlent, ils me disent qu'il y a un problème. Et puis, comme on se parle normalement entre... On ne parle pas comme si j'étais un bot ou bien quelqu'un qui travaille dans un engrenage dans une boîte de 120 personnes. Ah, et ça, c'est vraiment très agréable.
Alors,
il y a aussi beaucoup de rencontres avec...
Ouais, alors ça, vous pourriez faire des rencontres... par exemple, moi, j'ai le numéro 163. 163. Alors, est-ce que le numéro 165 ou 162, on pourrait faire un dîner ensemble ou il pourrait y avoir des rencontres par série?
Oui, des dates la machine.
Ouais, des dates la machine, par région.
Ouais. Mais non, je préfère des rencontres. Alors après, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis soit dans Lyon, Villeneuve-sur-Yonne, qui est à 2 heures à peu près à sud de Paris. Et je suis breton d'origine, mais là, je suis une fois à Paris. Mais voilà. Après, j'en ai fait deux, des rencontres en visio. Là, il y avait quelques dizaines de personnes où j'expliquais, pareil. Donc, c'est pas mal.
Bon, alors,
comme ça, on peut avoir des Américains.
Olivier, il nous reste 4 minutes. Déjà, où est-ce qu'on peut se procurer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, ce qui est une erreur, si vous voulez apporter des paillettes dans votre vie et que vous êtes convaincu que ce cube est pour vous, où se le procurer aujourd'hui?
Alors,
où et comment?
Aujourd'hui, c'est très facile, c'est sur le site lamachine.fr, donc la-machine.fr. Et donc là, elle est en vente. Alors, il y a un peu d'attente, hein, parce qu'on la fabrique un peu... Enfin, on essaie d'aller le plus vite possible, mais je pense là, il doit y avoir 4-5 semaines d'attente. Et puis, alors là, bon, c'est pas encore le cas, mais très bientôt, il y aura des boutiques. Il y a a priori en Andorre, c'est la première. Il y en a une à Paris, puis on a quelques-unes en Irlande. Et normalement aussi un aux États-Unis. Là. Mais pour l'instant, c'est sur la-machine.fr.
Alors, la machine, donc, on la réécoute. Je crois qu'elle a l'air contente de son émission. Je vais conclure et si on a quelques minutes après, on se reparle, Olivier. En tout cas, chers auditeurs, merci. Cette émission vient clôturer ma première saison en tant qu'animatrice radio sur Radio U au campus de Brest. C'était très sympa. Je reprends à la rentrée à 21h30 avec 1h30, un créneau plus long. Je serai là également cet été, mais sans invité, à partir du 12 juillet. Donc, les élucubrations d'Hermeline sur 101.1 FM. Et vous, quel est votre souvenir vintage ce soir? Les objets vintage et connectés. Le 9 septembre, je décline les élucubrations d'Hermeline sur scène à la Comédie du Finistère, aux ateliers des Capucins à Brest, dans un seul en scène, Hermeline seul en scène, mais je viendrai avec la machine, ça c'est sûr qu'elle sera avec moi sur scène. Quoi d'autre? Eh bien, je vous remercie pour votre écoute pendant toute cette saison. L'émission de ce soir, comme toutes les émissions, sera en écoute et en réécoute dès demain sur radio-u.org et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Merci chers auditeurs. Olivier Mével, merci. Un dernier mot, si vous voulez, avant le jingle. Je vous laisse le mot de la fin. On a exactement une minute.
Ah, c'est moi qui dois conclure. Alors,
ouais.
Je sais pas. Je pense qu'il faut avoir espèce de confiance que la technologie, ça peut être aussi autre chose que des trucs horribles comme l'IA et tout ça, voilà. Et que moi, c'est ça qui me porte, quoi.
Un art de vie poétique, ludique, avec de la fantaisie un petit peu chaque jour, hein, pour illuminer ces journées dans cette société qui s'assombrit quand même. Hein.
Voilà, très bien. Bah, vous le dites beaucoup mieux que moi.
Bon, c'est super. Merci Olivier. C'était merci. Un plaisir et merci pour cette machine que j'adore.
Merci.
Alors... Ah bah voilà, je me suis encore trompée les amis. Parce que la technique et moi, sur cette émission, merci de m'avoir suivi et de ne pas avoir commenté. C'était redoutable. En tout cas, voici le jingle de fin. Bye bye.
Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.